Projet Electronica, c'était vraiment un projet qui est lié au fait que j'avais envie de travailler avec des gens qui sont des sources d'inspiration pour moi, liés directement ou indirectement à la scène électronique sur les 4 décennies, au fond, depuis que j'ai
commencé. Et Depeche Mode faisait partie de...
Depeche Mode et Vince Clarke, ouais. C'est le son des années 80, on vient d'en parler à l'instant, et le son des années 80 n'a jamais été aussi pertinent aujourd'hui, puisque tout le monde se réfère en termes de musique, de mode, de cinéma aux années 80.
Alors, excusez-moi, est-ce que Pete Townshend, c'est un homonyme ou
Non, Pete Townshend des Who, c'est lui.
Alors, c'est électronique, ça?
Alors, le Pete Townshend des Who, c'est le premier qui a intégré les synthés et les séquenceurs dans le rock, avec des morceaux comme Bubba Riley, l'album Who's Next.
C'est formidable, Who's Next. Que tout le monde connaît comme étant maintenant le générique des experts, oui. C'est un peu réducteur, mais c'est ça.
Oui, ouais. Exactement. Et en fait, c'est le premier qui a vraiment intégré l'électronique dans le rock. Et puis c'est aussi le premier aussi qui a inventé l'opéra rock, qui a poussé les frontières du concert avec Tommy Quadrophenia, etc. Alors Tangerine Dream, on a commencé pratiquement ensemble. C'est vraiment un groupe fondateur de la musique électronique. Et on s'était vraiment jamais rencontrés et j'avais vraiment envie de travailler, ce qui a été le cas, où je me suis déplacé physiquement pour travailler avec chacun des collaborateurs. C'est pour ça que ça m'a pris pas mal de temps. Et en fait, ce qui est particulier dans ce morceau, qui le rend encore plus émouvant pour moi, c'est qu'en fait, c'est le dernier morceau que Tangerine Dream aura fait, puisque Edgar Froese, le leader de Tangerine Dream, est décédé quelques semaines après qu'on ait fait ce morceau qui s'appelle Zero Gravity. Donc j'ai travaillé beaucoup pour arriver à trouver une unité, ce qui n'était pas évidente. Mais pour moi, il y a quelque chose que tous ces gens ont en commun, c'est-à-dire à la fois un son instantanément reconnaissable et en même temps une approche organique du son. Et puis je dirais qu'on est tous des geeks et des nerds aussi, c'est-à-dire qu'on est tous des sales gosses passionnés de technologie, d'électronique, et donc c'est ça qui nous a réunis aussi.
Pourquoi finalement vous avez fait ce choix d'aller vers les musiques populaires? Vous vous êtes pas dit à un moment donné, je pourrais peut-être rester, parce qu'il y avait un côté quand même très hiératique, si je puis dire, chez OGRM, il y a un côté comme ça, les puristes. Pourquoi vous avez choisi cette autre voie? Qu'est-ce qui s'est passé?
Parce que moi je venais du rock aussi, c'est que j'avais des groupes je jouais dans des groupes de rock, ouais. Et en fait je me suis aperçu au bout d'un moment, vraiment moi c'est le passage ici à la maison de la radio à l'époque par rapport à et la rencontre avec Schaeffer a été déterminante, parce que c'est la première fois, comme vous le disiez, que des gens approcher la musique d'une manière complètement différente de ce qui avait été fait avant, aussi bien dans le classique que dans le rock, c'est-à-dire pas considérer la musique en termes de notes et en termes de solfège, mais la musique fondée en termes de son. Ouais. C'est-à-dire qu'on pouvait aller enregistrer le son de la pluie ou du vent, mmh, et puis en faire de la musique. Et ça, c'était complètement révolutionnaire. Aujourd'hui, tous les DJ sont font du sound design d'une certaine manière, mais à l'époque, c'était quelque chose qui était complètement nouveau. Et en fait, je me suis aperçu au bout d'un moment que c'était très bien d'être au groupe de recherche, mais comme me le disait Schaeffer, c'était très bien à condition d'en sortir. C'est-à-dire qu'il y avait au même moment
des formation.
Gens comme c'était oui, il y avait des gens au même soi. Moment qui comme Pink Floyd, Soft Machine, Tangerine Dream aussi à l'époque, faisaient ce que nous faisions de manière très cérébrale et très intellectuelle au groupe de recherche, de manière empirique. Et donc moi j'ai eu envie de faire un pont entre la musique expérimentale et la pop musique, tout simplement, d'où je venais, d'où
alors,
ce que j'avais envie d'exprimer.
C'est génial, parce que vous n'étiez pas le seul, parce qu'au même moment, alors là on est à la fin des années 60, vous avez Pierre Henry du GRM, mmh, le fameux groupe de recherche musicale, qui va composer le morceau de rock le plus génial de toute l'histoire de la musique, c'est Psyché Rock.
Psyché Rock, ouais.
C'est un truc absolument à tomber, si vous voulez. Et vous, aujourd'hui, vous n'êtes pas tenté de revenir vers, de dire, tiens, si je faisais un morceau hyper expérimental et que je renoue avec les musiques dites contemporaines?
Quand vous allez écouter justement les deux volumes d'Electronica, et notamment le deuxième que je suis en train de terminer, je pense que vous aurez une réponse à la question que vous me posez.
Et alors, juste pour le plaisir, on va écouter ce Psyché Rock.
Ah ouais.
Qui a été utilisé en générique, mais alors le nombre de fois où c'était un générique.
C'est pas Futurama.
Alors il faut dire que ce morceau, pour rendre justice à quelqu'un qui est pour beaucoup dans ce morceau, c'est un morceau de Michel Colombier. Et Michel Colombier a utilisé des sons de Pierre Henry. Et ce qui a toujours été d'ailleurs ambigu par rapport à Pierre Henry, c'est qu'on a beaucoup, on fait référence à Pierre Henry par rapport à ce morceau en permanence, c'est-à-dire que l'œuvre de Pierre Henry est immense, et elle va bien au-delà de ce morceau. Mais ce morceau a été fait en grande collaboration avec Michel Colombier.
Genre, c'est vrai que dans votre disque, Nagui a parlé des nombreux collaborateurs, mais il y a aussi Laurie Anderson. Alors là, peut-être qu'elle n'est pas très connue de tous ceux qui nous écoutent ici.
Madame Louride, déjà, si on veut faire du people, mais
voilà,
surtout
mais Madame Louride, veuve Louride, ouais, la veuve ouais. Louride.
On pourrait dire que Louride est monsieur Laurie Anderson ouais. aussi, parce que Laurie Anderson est largement aussi importante comme artiste que Louride. C'est une des plus grandes artistes de la scène new-yorkaise, aussi bien sur le plan musical que sur le plan des arts plastiques. Ouais. Et c'est quelqu'un que j'aime énormément, qui a un grand talent. J'étais ravi. Et on a fait très rapidement un morceau qui s'appelle Rely on Me sur cet album. Parce que cet album, un des thèmes récurrents de l'album, c'est aussi notre rapport à la technologie. Et en fait, l'idée de cette chanson, c'était en fait le fait de se dire qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui caressent leur smartphone plus que leur propre partenaire. C'était
parfois
amusant de faire une
chose.
Le partenaire se défendait pas dans la mesure où, en l'occurrence, le smartphone, c'était elle. Donc je me suis pas défendu du tout. John Carpenter, c'est en fait effectivement le metteur en scène génial d'Halloween et tous les films d'horreur fantastiques qu'on connaît, mais ce qu'on sait moins, c'est que c'est quelqu'un qui a introduit la musique électronique à Hollywood, qui a composé, qui est un très grand compositeur, qui a fait toutes ses soundtracks lui-même, en utilisant exclusivement des synthés analogiques. En fait, cet album repose sur deux principes. D'abord sur le fait qu'à un moment, j'ai encore utilisé un mot anglais, un anglicisme, qui est un mot que j'aime pas beaucoup, qui est le mot de featuring, c'est-à-dire qui consiste à envoyer des fichiers sur Internet à des gens qui vont poser une voix ou une mélodie sans qu'on se parle jamais, sans qu'on se rencontre jamais. Là, c'était l'inverse. C'était l'idée d'aller vraiment au-devant des gens avec qui j'avais envie de travailler et de travailler en studio avec eux. Et le deuxième dogme, c'était effectivement de composer, avant de les rencontrer, un morceau en fonction du fantasme que j'avais de ces gens. Donc j'ai composé au départ un morceau pour chacun, et ensuite en laissant évidemment suffisamment d'espace pour qu'ils puissent s'exprimer.
Avec l'exercice de le composer à la manière d'eux, c'est-à-dire en
même temps,
je rentre dans le, c'est moi qui rentre dans leur univers.
Voilà, en même temps, mais en gardant en même temps évidemment quand même mon ADN, mais en fait en mergeant en mélangeant et en mixant nos ADN. Je suis désolé.
C'est la journée Robert Dupart. Ouais. J'adore.
Et est-ce qu'on vous a résisté? Est-ce que des artistes n'ont pas pu collaborer avec vous, se libérer ou...
Bah écoutez, j'ai eu la chance que les 30 premiers, parce qu'il y en a 15 dans chaque album, m'ont dit oui. Donc je suis pas allé plus loin. Peut-être qu'il y aurait eu des refus ensuite. Mais enfin, j'ai vraiment eu la joie que tout le monde accepte. Et c'est ce qui fait que ce projet a grandi beaucoup plus que
croyais. Par exemple, John Carpenter, il a joué avec vous, qu'est-ce qu'il a fait concrètement?
Alors John Carpenter, en fait, c'est très simple. J'ai fait un morceau de musique en pensant à lui. Je suis allé le voir. On s'est vu à Los Angeles. Ouais. Et ensuite, on a passé du temps en studio ensemble pour que lui. J'avais laissé de l'espace pour que, en fait, il y a deux mélodies qui se croisent
il joue en même temps.
Exactement.
Il joue avec vous. Et Massive Attack, pareil, il a remixé.
Ah non, pas du tout, remixé. On a vraiment collaboré. C'est-à-dire que j'ai travaillé avec Robert Del Naja, qui est le leader de Massive Attack, et avec une base je suis venu avec une base en studio, et lui a ajouté, et on a travaillé ensemble, en fait, à partir d'une base. Ça a été la même chose pour tout le monde. Ça a été la même chose avec Moby, ça a été la même chose avec R. aussi.
Énorme succès, bonhomme incroyable en plus, Christophe, génial compositeur, artiste à fleur de peau. Je sais pas si vous êtes toujours copains d'ailleurs, je m'aventure peut-être sur un terrain délicat en disant ça.
On est tellement copains qu'on a passé par hasard la soirée ensemble le jour de l'attentat du Bataclan.
Vendredi soir, vous étiez ensemble.
Vendredi soir, d'accord. Pour enregistrer d'ailleurs, deux choses. On travaille ensemble. Il est un des collaborateurs de la deuxième partie d'Electronica.
Génial.
Et c'est avec un grand plaisir qu'on s'est retrouvés. Et puis aussi, je fais des choses aussi pour son album, dont on aura l'occasion de reparler aussi.
Est-ce que ça vous dérange d'en reparler un tout petit peu? Parce que là, vous écrivez sur les mots bleus, ce sont les textes que vous avez écrits et pas la musique. On pourrait s'attendre que justement, parce que c'est très planant, c'est très synthétique, que la musique c'est vous. Pas du tout, la musique c'est lui. Et vous,
c'est-à-dire que c'était une époque.
Et les textes, pardon Jean-Michel, sont sublimement beaux, romantiques, tendres et délicats. Et pourtant, toute votre carrière, vous l'avez construite sans aucun texte. C'est ça le paradoxe.
C'est-à-dire que pour moi, les textes ont toujours fait partie de... d'un univers sonore dans les albums auxquels j'ai pu collaborer avec des gens comme Christophe ou comme Françoise Hardy ou comme Patrick Juvet. Puisque je suis très heureux d'avoir composé l'hymne de la Gay Pride. Où sont les femmes?
Où sont les femmes? Bien entendu. Oui, c'est lui.
Voilà.
Lui, Jean-Michel, qui les a trouvés, t'inquiète pas. Voilà. Mais sont les femmes.
D'ailleurs, Patrick Juvet m'avait dit d'ailleurs qu'il a mis un certain nombre de temps à comprendre le premier, le deuxième et le troisième degré du morceau. Et donc, Christophe, en fait, c'était une époque aussi où on était en studio pour. Moi, j'étais obsédé à cette époque-là par les albums concept anglais, c'est-à-dire qu'ils soient pas seulement une suite de chansons, mais qui prennent en compte un univers. Mmh. Et j'ai
à la Bowie,
exactement. Ziggy, et Christophe sortait vraiment de la variété des marionnettes, d'Aline, etc. Et j'ai senti vraiment aussi en lui cette espèce de personnage absolument incroyable qui était embryonnaire et qui a donné les Paradis Perdus, les Mots Bleus. Et donc on a travaillé en studio pendant 3 mois et moi je me suis collé au texte parce que c'était difficile de se dire on va faire venir un parolier d'un seul coup qui allait poser des mots sur un album qui demandait plus que une approche différente en tout cas que d'avoir juste une suite de textes sur des morceaux mais qui demandait un regard un peu global.
Et vous avez demandé à David Lynch aussi de faire de la musique pour le volume 2?
Oui, d'ailleurs c'est le premier qui avait rendu sa copie si je puis dire je m'en excuse d'ailleurs parce qu'il est dans le deuxième album tout simplement parce que j'avais pas terminé moi mon travail. J'ai beaucoup de il y a aussi une raison pour laquelle j'ai travaillé avec lui, bien sûr.
Alors, il y a d'autres artistes comme Laurie Anderson, Lang Lang et autres. On va pas écouter tout l'album. Vous avez qu'à l'acheter après tout.
Et aussi M83, que j'aime beaucoup.
Oui, absolument.
Et qui est vraiment un artiste français 83 pour le Var, pour ceux qui l'ignoraient, mais pour le monsieur qui est attaché à nos racines linguistiques françaises.
Robert!
Et M83, il vit maintenant en Californie, il s'appelle Anthony Gonzalez et c'est un très très grand musicien. J'étais ravi de travailler avec lui aussi.
Alors, est-ce qu'il y a des artistes que vous auriez aimé avoir? Je pense au Pink Floyd, je pense au Daft Punk, je pense à Kraftwerk, je pense à des personnes qui sont dans cet univers musical et qui ne font pas partie. Pas parce que les emplois du temps n'allaient pas, parce que c'était pas possible, parce qu'ils ne voulaient pas, j'en sais rien. Est-ce que vous avez contacté David Gilmour? Vous avez demandé
la liste des gens avec qui j'aurais voulu travailler. Il suffirait pas d'une journée pour la faire. Et à un moment donné, avec 30 collaborateurs, il fallait s'arrêter là. Et dans le rock, par exemple, Pete Townshend me semblait vraiment quelqu'un j'avais envie de travailler. Il a fallu faire des choix. Et avec Daft Punk notamment, Daft Punk au moment où je commence le projet, Daft Punk eux sortent ce très bel album qui est plutôt un album qui va vers le disco et qui prend ses distances vis-à-vis de l'électronique pure.
Oui, qui se rapproche des riffs de guitare de Nile Rodgers plutôt que des
synthés. Ça me semblait dans les très très grands groupes français qui marquent ce moment-là, R évidemment me semblait évidemment très approprié puisqu'on se dit entre nous qu'il y a de l'oxygène dans l'air.
Oh joli.
Je savais que vous apprécieriez.
Et le projet de Nicolas, il est venu nous présenter ici, projet en solo, il est vachement bien.
Formidable aussi. Album, Contrepoint, de Nicolas Gaudin, la moitié de R. Et Jean-Benoît Dunkel aussi prépare son album aussi qui est magnifique.
Aussi son projet solo, très bien.